Merci d'écouter RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une ce matin, la République démocratique du Congo et l'arrivée annoncée de Joseph Kabila à Goma. Annoncée par ses proches et par les dirigeants de l'AFC-M23, le groupe politico-militaire qui contrôle cette grande ville de l'Est congolais. Venir à Goma, pourquoi faire? Vous entendrez dans quelques instants le secrétaire permanent du parti politique de l'ex-chef de l'État congolais, l'Est de la RDC également, où Amnesty International alerte sur des cas de torture et de mort en détention dans les zones contrôlées par le M23. Explication à suivre. Dans ce journal également, le témoignage au Soudan d'un ancien occupant de Zamzam, ce gigantesque camp de déplacés pris d'assaut le mois dernier par les paramilitaires FSR. Le Cameroun, où le chantier du complexe sportif d'Olembe près d'Yaoundé est toujours à l'arrêt et désormais c'est le théâtre d'un bras de fer judiciaire entre le gouvernement et l'entreprise canadienne McGill. Et puis notre dossier ce matin en Tunisie, on s'intéresse à la lutte contre les violences faites aux femmes. À Goma, pourquoi faire? En République démocratique du Congo, les proches de l'ancien président Joseph Kabila et les dirigeants de l'AFC-M23, le groupe qui contrôle Goma depuis le mois de janvier, assurent que l'ex-chef de l'État congolais se trouve dans la capitale du Nord Kivu, la grande ville de l'Est congolais. Ils disent même qu'ils pourraient dévoiler aujourd'hui un programme des rencontres et des entretiens que Joseph Kabila compte mener. L'ancien président réfugié, entre guillemets, dans la partie du pays qui échappe au contrôle des autorités de Kinshasa, qui veulent de leur côté le traduire en justice. Alors que le porte-parole du gouvernement a affirmé avant-hier que Joseph Kabila n'avait plus rien à apporter au pays, le PPRD, son parti politique, est d'un avis ce matin diamétralement opposé. Pour Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, Joseph Kabila a une expertise et une expérience à faire valoir.
Tout le monde sait que le président Kabila, il connaît le Congo pour l'avoir dirigé pendant plusieurs années. Il connaît la région des Grands Lacs, il connaît les acteurs et leur système de jeu, on peut dire. Je crois que sa contribution, c'est de parler avec les gens du M23, parler avec eux pour finalement discuter, savoir comment on peut résoudre les problèmes ensemble. Je ne crois pas qu'il y aura ici une contribution militaire. Bon, lui n'a pas d'armes, il va le trouver où? Et il était militaire, il a été formé, il a fait sa carrière, mais aujourd'hui il est président honoraire. Donc il faut saluer cette visite du président Kabila à Goma pour qu'il puisse se parler avec les autres et enfin ramener la paix. Chacun doit donner sa contribution. La solution doit être globale et chacun de nous doit donner sa contribution. Et lui, il fait sa part. Il connaît ces gens qui sont là-bas, les responsables de l'AFC M23. Il va parler avec eux. C'est une grande contribution, à mon avis, comme les autres l'ont fait, les évêques et les pasteurs et tous les acteurs qui sont passés là-bas des Grands Lacs.
Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, le parti politique de Joseph Kabila. L'Est congolais, Goma, Bukavu et plus généralement dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Amnesty International alerte sur des cas de torture et de mort dans les lieux de détention. L'ONG de défense des droits de l'homme publie un rapport ce mardi et affirme, je cite, que le M23 soutenu par le Rwanda tue, torture et fait disparaître de force des détenus. On prend certains en otage et les soumet à des conditions inhumaines dans les lieux de détention. Des actes qui violent le droit international humanitaire et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre, selon Amnesty International. Christian Roumou est chargé de campagne pour cette ONG pour la région des Grands Lacs.
Nous avons documenté au moins 4 cas où des détenus étaient torturés par un 23 et puis ces 4 personnes sont mortes à la suite de ces tortures. Nous avons documenté des cas d'arrestation arbitraire. Des personnes ont été arrêtées sur base d'accusations que ces personnes collaboraient avec le gouvernement ou collaboraient avec la société civile. Mais tout cela sans preuve. Et les 18 personnes que nous avons interviewées pour ce travail nous ont dépeint des conditions très très difficiles. On leur refusait de la nourriture. morsures, même de l'eau, mais aussi ils ont décrit des conditions sanitaires qui étaient horribles. Nous sommes très très alarmés par cette situation parce que ces actes qui constituent une violation grave du droit international humanitaire et qui peuvent en fait constituer un crime de guerre, se passent dans des conditions où il n'y a pas du tout de monitoring de ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut absolument que le 123 donne accès aux moniteurs internationaux pour qu'ils puissent visiter ces sites.
Christian Roumoux d'Amnesty International. C'est une nouvelle étape judiciaire dans une longue affaire. Hier à Paris, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir fait appel après la décision il y a 10 jours de ne pas mettre en examen Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana. Les juges d'instruction français ont une nouvelle fois estimé qu'il n'existait pas à ce stade, disent-ils, d'indices qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide au cours du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Le parquet antiterroriste, lui, donc, n'est pas de cet avis. Willy Diello.
17 ans après l'ouverture de l'enquête, Agathe Habyarimana est toujours placée sous le statut de témoin assisté. Selon les associations parties civiles, elle était l'une des dirigeantes de l'Akazu, le premier cercle du pouvoir Hutu, qui aurait orchestré le génocide. Maître Richard Gizagara est l'avocat des parties civiles.
Les victimes sont les premiers à regretter que cette procédure dure depuis autant de temps. Nous regrettons que ce soit long, mais nous avons toujours espoir que ces dames puissent répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés.
Face à la multiplication des étapes judiciaires, Philippe Ménac, avocat d'Agathe Habyarimana, dénonce un acharnement judiciaire.
On assiste à cette manœuvre un peu désespérée du parquet, cette stratégie dilatoire qui vise à précisément tenter d'empêcher le juge d'instruction de rendre cette ordonnance. Alors, je crois que les choses sont claires et aujourd'hui, la prochaine étape qui est attendue, c'est, encore une fois, que le juge d'instruction puisse rendre cette ordonnance qui rendra justice et quelque part aussi son honneur à ma cliente.
Pour la suite, la chambre de l'instruction va devoir de nouveau se prononcer sur la mise en examen. La prochaine décision est attendue dans les semaines à venir.
Wally Diallo à Paris, où il est 8h37, même heure, à Khartoum. Que devient aujourd'hui le camp de déplacés de Zamzam? Nous sommes donc au Soudan, pays en guerre depuis plus de 2 ans, entre l'armée, fidèle au président de la transition, Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR, les hommes du général Emeti, des paramilitaires en position de force dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays, mais qui n'en contrôlent toujours pas la principale ville du Darfour Nord, El Fasher, à une quinzaine de kilomètres de Zamzam. Le mois dernier, les FSR ont attaqué le camp de déplacés, faisant fuir des centaines de milliers de ses opposants et s'installant sur le site pour s'en servir de base arrière, nous explique Alexandra Branjon.
Le camp de Zamzam est devenu une base arrière des FSR. Selon plusieurs témoins, ils y ont installé leurs troupes, plusieurs milliers, de l'artillerie lourde, des véhicules, une base de repli d'où ils lancent leurs attaques sur El Fasher, dernière capitale du Darfour, à être toujours aux mains de l'armée. Selon Mohamed Kamis Douda, porte-parole du camp qui a lui-même fui vers El Fasher, les paramilitaires empêchent tout civil de venir récupérer leurs biens.
Quand nous avons fui, nous avons tout laissé derrière nous, nos biens, nos animaux. Même ceux qui sont morts, nous n'avons pas pu retourner récupérer leur corps. J'ai un frère qui est mort pendant l'attaque et son corps est toujours là-bas. J'ai perdu d'autres membres de ma famille, je ne sais même pas s'ils sont morts ou vivants.
Selon lui, plusieurs milliers de civils qui n'ont pas fui au moment de l'attaque mi-avril sont toujours coincés dans le camp et vivent dans des conditions très difficiles. Toutes les infrastructures ont été détruites, notamment les centres de santé, et plus aucune ONG n'y a accès pour apporter de l'aide humanitaire.
Alexandra Branjon. Au Cameroun, c'est le stade qui a vu il y a 3 ans le Sénégal décrocher la première CAN de son histoire, le stade d'Olembe en banlieue de Yaoundé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sur le terrain judiciaire que s'affrontent le gouvernement camerounais et McGill, qui a repris la fin du chantier. L'entreprise canadienne réclame 16 milliards de francs CFA, alors que de son côté, le gouvernement camerounais estime que l'entreprise a manqué à ses engagements. Correspondance de Richard Onanena.
L'affaire fait la une des journaux locaux. L'entreprise canadienne s'en prend au ministère des Sports. Le donneur d'ordre est signataire de la réception anticipée des travaux du complexe Omnisport d'Olembe, qui est, selon McGill, à l'origine du blocage des fonds, près de 16 milliards de francs CFA. En 2023, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris a demandé à l'État camerounais de mettre cette somme représentant les factures litigieuses dans un compte séquestre. Le gouvernement camerounais conteste cette décision, affirmant que McGill a perçu plus d'argent que prévu pour la première phase du projet, soit 42 milliards de francs CFA, au lieu des 22 milliards prévus. Le gouvernement camerounais n'exclut pas une contre-attaque contre McGill devant les juridictions compétentes pour manquement à ses engagements contractuels. McGill a été choisi par le Cameroun en 2020 pour achever les travaux après la rupture du contrat avec l'Italien Piccini. Le chantier du complexe sportif d'Olembe est à l'arrêt depuis près de 2 ans. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Dans l'actualité, ce matin également, le Niger, où l'on parle désormais de 58 soldats tués avant-hier quand des djihadistes du groupe État islamique ont attaqué une base militaire non loin de la frontière avec le Mali, la base d'Eknewane. Les militaires nigériens mènent depuis des opérations de ratissage. Au Sénégal, un cinquième ancien ministre inculpé, Amadou Mansour Diaye, inculpé de faits de corruption et de détournement de fonds pour sa gestion de fonds destinés à la lutte contre le Covid. Quand il était ministre du développement communautaire lors de la présidence de Macky Sall. On en parle avec notre invité après ce journal, le politologue Mamadou Lamine Sarr. Et avant de retrouver Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin, direction la Tunisie pour notre dossier Tunis qui a réuni des représentants des sociétés civiles jordaniennes, marocaines et tunisiennes ce mois-ci pour dresser le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ces trois pays, malgré des évolutions de la loi, les militants estiment qu'il y a encore beaucoup à faire. Lilia Blaise.
Ahmed Mkadem, chargé de recherche à l'association féministe Aswat Nissé, explique qu'outre la solidarité entre les différents pays arabes sur la lutte contre les féminicides, certaines similarités apparaissent.
Les points communs, en fait, c'est la mentalité patriarcale, ce qui fait que dans chaque pays, on retrouve les mêmes arguments pour justifier le fait de tuer une femme.
Une vision aussi partagée par la Jordanienne Banan Abou Zainedine de l'association Takatoat.
Dans notre pays, la femme est toujours comprise dans le cadre de la famille et protégée par celle-ci. Cette idée ancre la vision sociétale que la femme est la cause de la violence et non pas qu'elle peut la subir à cause de son genre.
Côté marocain, la journaliste indépendante Camélia Echihab, créatrice de la page Stop Féminicide Maroc, s'occupe elle-même de recenser les féminicides en compilant des données dans les médias via la section Faits divers.
J'en suis arrivée à 50 féminicides en 2023, trentaine en 2024, et là actuellement j'en suis à 7 pour 2025. Mais tous ces chiffres ne sont pas du tout exhaustifs, ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg et ils sont très en deçà de la réalité.
Une réalité qui peine à mobiliser les politiques en réaction au phénomène dans les trois pays, Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et pour prendre l'exemple de la Tunisie, l'association Aswat Nissa a recensé l'an dernier 26 féminicides, un chiffre que l'ONG juge élevé et qui, pour la sociologue Fethia Saïdi, montre que la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas aujourd'hui une priorité politique.
Pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est pas les violences à l'égard des femmes, parce que aujourd'hui, la priorité, c'est la famille. On a remarqué que le nom même du ministère a changé. On trouve, bien sûr, la famille qui devance la femme. Et cela veut dire pour moi que la famille, c'est la priorité. Les violences viennent en second lieu. Et bien sûr, la lourdeur de l'administration. Normalement, par exemple, l'Observatoire, lorsqu'il élabore un rapport et fournit ses rapports au ministère de tutelle, qui est le ministère de la Famille, c'est pour aider les décideurs, pour mettre des programmes, des stratégies, pour formuler des politiques publiques. Mais étant donné que la priorité, ce n'est plus la femme et ce n'est plus les violences, alors tout ça tarde un peu.
La sociologue Fethia Saïdi à Tunis, où il est maintenant 7h44. Et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.